les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, le portrait d'une grande dame du cinéma, un voyage exceptionnel autour des conquêtes du Portugal et un auteur de BD pas comme les autres. Pour la première fois dans la librairie francophone, nous recevons un auteur de BD déjà culte de son vivant, salué par la critique et le public, voire même parfois par les politiques. À son corps défendant, on l'attend sur ce plateau depuis 10 ans. Bonjour Jacques Tardy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. 4 expositions autour de votre œuvre sont organisées en ce moment en France, du côté de la Normandie. Votre nouveau tome de Stalag 2B sortira le 28 novembre. Merci de nous le présenter en avant-première. C'est l'histoire de votre père à la guerre, et c'est la souffrance de ces soldats, plus cette souffrance-là d'ailleurs que la mémoire qui vous intéresse et qui motive votre travail.
Oui, j'avais envie de parler de tout ça parce que j'ai été, on peut le dire, abruti par les récits de mon père qui parlait de sa captivité. Et il en parlait en désordre et un jour je lui ai dit, écoute, raconte-moi tout ça chronologiquement, parce que j'ai envie d'en faire quelque chose. Et il m'a rempli 5 cahiers d'écolier, où il a raconté tout ça par le menu. Ouais. J'ai posé ça sur une étagère en me disant qu'un jour j'en ferai quelque chose. Le temps a passé, il est mort et j'y suis venu bien trop tard parce que j'avais énormément de questions à lui poser.
On reviendra d'ailleurs sur ce regret que vous avez. C'est une œuvre magnifique en tout cas. Jacques Tardy est avec nous dans la librairie francophone. Dans un registre beaucoup plus léger, frivole même parfois, nous parlerons de Catherine Deneuve à travers ses films. Nous allons vous faire vivre sa carrière grâce à des sons et à la belle voix d'Isabelle Giordano, grande spécialiste du cinéma en France. Elle publie un livre magnifique sur Deneuve chez Gallimard. Et puis dans un instant, nous serons avec l'écrivain suisse Eugène qui publie l'un des romans les plus passionnants de cette rentrée littéraire. Nous irons en Inde et au Portugal avec lui.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont avec nous en multiplex comme chaque semaine. Pour la Belgique, on rejoint Déborah Damblon du côté de sa librairie La Licorne à Bruxelles. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien Déborah?
Mais tout va bien.
Bien. En France cette semaine, c'est Thomas Auxerre.
Bonjour Emmanuel.
De la librairie Lamandier à Puteaux. Bonjour Thomas. Vous êtes à côté de la Défense.
Tout à fait.
Juste à côté. Il y a un petit côté américain là-bas, non?
Un petit peu. Ouais, vu de loin, un petit peu. Ouais, c'est vrai.
On lit beaucoup quand même.
Mais on lit quand même, malgré tout.
Comme aux États-Unis d'ailleurs.
Pareil.
Comme au Canada, partout.
Pareil.
Et on y va d'ailleurs, dans l'Amérique francophone, qui est représentée par Marie-Hélène Vaugeois au Canada. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Québec, dans la librairie Vaugeois. Et puis cap sur la Suisse avec Claire Renaud de la librairie Atmosphère à Genève. Bonjour Claire.
Bonjour Emmanuel.
Pleine forme Claire, aujourd'hui pareil.
Oui, ça va.
C'est vrai. Bon, merci d'être avec nous tous les quatre. Vous interviendrez bien sûr tout au long de cette émission. Bonjour Isabelle Giordano.
Bonjour.
Nous parlerons de ce livre sublime qui vient de sortir chez Gallimard. Catherine Deneuve, film par film. Mais on commence toujours cette émission par une histoire personnelle racontée par l'un de nos invités. C'est tombé sur vous, Isabelle, cette semaine. Que voulez-vous nous confier?
Je voulais vous raconter un dîner. C'était il y a 2 ans. Imaginez à Tokyo, un vrai restaurant japonais. J'ai à ma droite Isabelle Huppert et Paul Verhoeven. J'ai à ma gauche Catherine Deneuve. C'est un vrai dîner japonais, autant dire qu'aucun de nous n'aime ce qu'on mange. Donc je me dis, oh là là, le dîner démarre mal. Il y a peut-être, qui sait, dans l'air, une petite rivalité entre les deux stars que j'ai à ma droite et à ma gauche. Le dîner est un peu froid et heureusement, il y a à table un espèce de zébulon, un énergumène qui tout d'un coup tutoie Catherine Deneuve, ce que je ne me permettrai jamais de faire alors que je l'ai déjà interviewé des centaines de fois. Ouais. Et il dit, mais Catherine, pourquoi est-ce que tu as mis cette horrible le chemisier à fleurs. Et cet énergumène, c'est Édouard Baird, bien connu des auditeurs, qui a décoincé le dîner. Donc voilà, on n'aimait pas ces espèces de poissons crus qu'on mangeait.
C'est bon, les sushis, parfois.
On était pieds nus ou en chaussettes, vous voyez.
Oui, c'est vrai.
Parce que c'est
le Japon.
Il faut
se déchausser, oui.
Et heureusement, Édouard Baird nous a aidés à décoincer tout cela. Bien. Et Catherine Deneuve, grande dame, a ri de cette situation. Et voilà, le dîner s'est merveilleusement bien passé.
Et Catherine Deneuve, qui est en ce moment même
au Japon. Voilà, oui. J'ai pas fait exprès, mais la boucle est bouclée.
Voilà, la boucle est
elle
bouclée.
Reçoit un prix très important, qui est un peu l'équivalent d'un prix Nobel pour les artistes.
Voilà, on salue Catherine Deneuve depuis la France, le Canada, la Belgique, enfin toute la francophonie,
en
la Suisse, en passant par Tokyo, évidemment. Isabelle Giordano est dans la librairie francophone cette semaine. Et bonjour Eugène.
Bonjour, bonjour.
Soyez le bienvenu, vous êtes un auteur suisse, connu notamment pour vos livres pour la jeunesse. Vous publiez Ganda, un roman pour tous. C'est un peu osé parfois, mais très peu. Cette histoire est incroyable en tout cas, mais elle s'appuie sur des faits historiques. Vous racontez les conquêtes du Portugal. En 1515, on se bat pour l'Inde.
Oui. Ce qui m'intéressait, c'est que tout est vrai. En tout cas, l'ossature, le squelette est vrai.
Oui.
C'est vraiment l'histoire d'un rhinocéros offert au roi du Portugal. Et puis à l'époque, on trouvait normal de mettre un rhinocéros sur une caravelle en partance de Goa, lui faire faire le tour de l'Afrique et de l'envoyer à Lisbonne.
Voilà. Alors il y a ce personnage arriviste tout d'abord, avide de pouvoir et de conquête, Alfonso de Albuquerque, qui massacre les musulmans.
Oui.
Il tue, il pille tout ce qui entrave le chemin de ses troupes.
C'est ça. Alors c'est un conquérant qui est finalement passé à côté de l'histoire, on ne se souvient plus du tout de lui.
Qui a existé.
Oui, oui, qui a existé, qui avait le contrôle d'une immense portion de mer.
Et puis il veut réussir en fait là où, selon lui, Christophe Colomb a échoué. Colomb, que l'on traite d'abruti, têtu comme une bourrique basque, écrivez-vous, Eugène. C'est même la valeur étalon de l'imbécilité.
Oui.
Ça vient de vous, ça, ou c'est...
Non, ça vient de moi.
Ah oui, d'accord, parce que je me suis dit, où a-t-il trouvé ça?
J'ai rarement vu un homme aussi têtu, c'est-à-dire que quand il arrive en Amérique par erreur, oui. C'est tout à son honneur, c'est la sérendipité, on trouve quelque chose sans le chercher, par hasard on découvre. Ensuite, les 10-15 années suivantes, il s'entête à croire qu'il est bel et bien vers les Indes, de l'autre côté du monde. Alors, il se met à chercher l'empereur du Japon à Cuba, ne comprend pas pourquoi il le trouve pas. Au début, on raconte que la première traversée. Alors évidemment, c'est une vraie odyssée, c'est une épopée, parfait. Mais ensuite, il retourne 4-5 fois et continue à s'enferrer dans son erreur. Et c'est surtout la croyance que l'Européen peut tout maîtriser. Il arrive Il a décrété qu'il est aux Indes.
Ouais, mais ils sont tous têtus hein, dans votre histoire. Il y a le roi Manuel Ier, roi du Portugal, avec un titre à rallonge d'ailleurs, qui dira à Alfonso dans une lettre « Tuer des Arabes, c'est bien. Rendre jaloux les Espagnols, c'est encore mieux. » Ils sont horribles, hein, vraiment, tous vos personnages.
C'est un peu la foire des vanités, très fier d'eux et... À mon avis, à l'époque, le vrai prestige, c'était pas d'avoir une armée ou une conquête, c'était la ménagerie royale. La taille de sa ménagerie royale, ça veut dire qu'on avait des terres très lointaines. Et pour le coup, à l'époque, Manuel Ier, c'était vraiment celui qui avait la plus grosse ménagerie.
Mais il collectionne les animaux,
oui,
du monde entier.
Oui, parce qu'il possédait une partie du Brésil, il venait de le découvrir, et il avait une partie de l'Inde aussi. Donc c'était quand même, pour ce peuple, c'est stupéfiant. Ils sont vraiment, à l'époque, ils sont 1,5 million de Portugais, et ils possèdent... un bon bout de globe.
On va raconter une histoire étonnante autour d'un animal, l'éléphant avec sa petite corde qui le tient attaché. On va dévoiler juste ça du livre, mais c'est vraiment un passage exceptionnel. Juste avant, il y a Claire Renaud qui est en Suisse, qui a lu votre roman Eugène et qui a adoré, je crois, ce roman. Claire ?
J'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est un livre que je conseille beaucoup parce qu'il est facile à lire, il est passionnant et il est plein d'humour. Mais en fait, il faut se méfier, parce que derrière tout cet humour se cache pour moi la bêtise humaine dans toute sa splendeur, qui visiblement traverse encore les siècles actuellement. Puis comme vous le savez, les cadeaux animaliers, apparemment, ça se fait toujours.
Oui, ça se fait toujours, avec A2A, qui va... A2A, c'est Alfonso, que vous surnommez. Il y a plein de surnoms comme ça. Non, mais on rigole tout au long du livre. Okay. Il va faire la rencontre d'un pseudo-médium qui dit voir l'avenir dans ses rêves.
Ouais.
Un escroc, comme tous les médiums depuis toujours, encore aujourd'hui,
Exactement.
Bref. Osem, donc, un Indien d'Inde, malin et rigolo, va se faire une place auprès d'Alfonso en lui sauvant la vie à propos d'un éléphant.
Oui, en fait, il a manigancé un coup pour avoir l'air d'avoir prédit l'avenir. J'en ai fait un intouchable. En fait, dans la vraie histoire, c'est qu'on sait seulement le nom du cornac qui accompagnait ce rhinocéros. Il s'appelait Oseb. On sait rien de lui, ce qui me choque beaucoup, puisque c'est quand même un des premiers Indiens à débarquer en Europe, il y a 5 siècles, et il ne reste aucune trace de lui, parce que c'était ni un prince, ni un marchand, rien.
Et voilà cette histoire d'animal, Eugène. L'éléphant bleu et l'arrivée d'un ganda, un rhinocéros offert par le sultan du Gujarat, en guise de cadeau de consolation.
Oui.
Dites-nous vite fait, pourquoi consolation?
Parce que... A2A voulait construire une forteresse, alors il demande au sultan local, est-ce que je peux faire ça? Le sultan dit non, mais c'est bon, vous allez finir par nous envahir avec votre forteresse.
C'est ce qu'il veut faire d'ailleurs.
Oui, donc non, vous pouvez pas, mais comme il faut rester en bon terme, il lui donne une forteresse vivante, c'est-à-dire un rhino, un ganda comme on dit en indien. Et lui ne sait pas quoi en faire de ce gros machin à Goa. Il se demande qu'est-ce qu'il va en faire. Et puis, moi, je connaissais cette vieille histoire, c'est qu'un cadeau, il faut jamais le rendre, il faut le recycler si on l'aime pas. Rendre, ça rompt toute relation, mais quand on recycle, c'est mieux. C'est-à-dire qu'il l'offre à quelqu'un de plus puissant que lui pour sa propre gloire, et c'est son roi, Manuel Ier.
C'est ça, il va pas savoir qu'en faire. Ouais. On va y revenir, on va attacher le ganda comme ça avec de grosses chaînes pour pas qu'il bouge, parce qu'il est quand même féroce, alors que l'éléphant est attaché avec une petite ficelle. Oui. C'est un grand mystère que va dévoiler Osem dans une lettre à Alfonso, et toute la philosophie du livre, Eugène, est dans ce passage. On va lire ce passage, si vous permettez. Et c'est Jacques Tardy qui a accepté. Oui, alors vous êtes fan de Jacques, je crois.
Ça tombe bien.
Ça tombe bien.
Rassureux.
Et ça va être sur la musique indienne du Mahabharata, que vous connaissez tous. Je vous fais signe dans un instant, Jacques. Et voici la musique indienne.
Avant de terminer cette lettre, je voulais vous révéler un secret. Vous vous souvenez sans doute de ce fameux secret des cornacs. Comment une simple cordelette peut-elle garder prisonnier un éléphant? La réponse est désolante. L'éléphant ne sait tout simplement pas qu'il peut la casser. Dès le premier jour, le cornac attache l'éléphanteau avec cette cordelette. Le bébé pachyderme a beau tirer, il ne parvient pas à la casser. Si bien que l'animal grandit avec la conviction que la cordelette est incassable. Toute sa vie, il restera persuadé qu'il n'a aucune chance de briser ce lien. Pour sa part, Ganda a été capturé à l'âge adulte. Il n'a jamais grandi avec une cordelette dans la tête. C'est pourquoi il faut des chaînes solides pour l'empêcher de courir. Ganda est plus libre que beaucoup d'hommes. Vous savez, on est tous l'éléphant de quelqu'un, attaché par une minuscule cordelette qu'on imagine incassable. Je vous souhaite de briser la vôtre.
Jacques Tardy, qui lit un extrait de Ganda, signé Eugène. Magnifique lecture, Jacques. Merci beaucoup.
Merci.
Elle est pas mal, cette histoire. C'est une belle histoire. Et c'est vrai que c'est ça, le livre. Pour tous vos personnages, il faut arriver à briser sa chaîne. En tout cas, être conscient que parfois, on peut se libérer des entraves.
On s'interdit beaucoup de choses dans la vie. On dit, c'est pas pour moi. Par autosuggestion, on se déclare incapable de... Donc ce Ganda, lui, est libre. Il n'a jamais été enfant attaché en tant que bébé rhinocéros. Donc il est plus libre que beaucoup d'hommes. Ça m'intéressait, cette situation. Ce qui m'intéresse aussi, c'est à quel point, quand on décide que j'ai le droit de tout faire, on finit président des États-Unis. Par exemple, Trump décrète qu'il a le droit de tout faire et il fait tout, effectivement.
Emmanuel Ier, c'est un peu ça, j'allais dire. Hein. C'est un peu Donald Trump aussi, Emmanuel
Ier. À l'époque, pour 1515 aussi. Donc, bon, il y a plein de liens avec notre époque, c'est un roman historique, mais moi je voulais parler de nous. Bah, par exemple, le président Macron a offert en janvier un cheval à la Chine.
Oui.
Voilà, donc les cadeaux diplomatiques vivants continuent. Donc c'est pour parler de nous.
Bon, on va voir du côté de nos libraires, parce que c'est un livre passionnant, Eugène, très drôle, qui nous apprend beaucoup de choses, c'est très réussi. On va voir s'ils sont d'accord avec moi, et on va commencer par Déborah Damblon pour la Belgique.
Ben moi, j'ai aimé des tas de choses dans votre livre. J'ai aimé d'abord cette histoire incroyable qui m'a rappelé les livres d'aventure de ma jeunesse. Puis j'ai aimé aussi votre érudition immense et joyeuse. J'ai aimé évidemment votre humour, on en a parlé. On le trouve au coin d'une note de bas de page, au cœur d'une description. Alors, il y a des petites choses que j'ai un peu moins aimées. C'est que je trouve que vous teniez un fameux bon sujet, mais qu'à mon goût, il est à certains moments un peu trop noyé dans les détails et dans les précisions, justement. Et je m'y suis parfois un petit peu perdu.
Je suis pas d'accord du tout avec vous. Désolé, je donne mon avis aujourd'hui. Thomas Osser, pour la France, vous n'êtes pas d'accord non plus.
Pas tout à fait. Je suis pas d'accord avec la fin de ce que disait Déborah.
Vous pouvez me soutenir quand même.
Oui, voilà, je
l'auteur
soutiens.
Plutôt, mais
ouais. Non, moi pas trop de détails. Au contraire, moi, c'est exactement le genre de livre que j'aime beaucoup, qui raconte justement une histoire dans la grande histoire, et qui vous emporte totalement durant sa lecture. Et puis en plus, on traverse le globe, donc ça, super. En plus, vous maniez à la fois l'espièglerie, l'humour, et puis vos personnages historiques, ils sont pas toujours très glorieux, hein. Donc ça fonctionne très bien. Moi, je recommande vraiment très chaudement aux auditeurs.
D'accord.
Bon, merci beaucoup. Eugène, okay.
La vie de nos libraires, il y a un passage par Marseille sur l'île d'If, oui. Du Ganda avec le roi de France, François Ier, qui est hilarant. Les Marseillais en font des tonnes, mm-hmm. imaginent des choses, caricatures, sont dans l'excès, c'est étonnant pour des Marseillais. Mais en tout cas, on peut pas tout raconter, mais c'est vrai qu'on fait le tour du globe, il a raison Thomas.
Oui, la créature s'est vraiment arrêtée sur l'île d'If. Parce qu'après, le roi Manuel décide de l'offrir pour sa propre gloire à quelqu'un de plus puissant que lui, comme toujours, et c'est le pape.
Il se le passe. Oui, donc il faut amener le Ganda jusqu'à Rome.
Exactement. Bon, alors il y a quelques années, je débarque à Marseille parce que c'était la capitale culturelle européenne.
Oui.
Je vais au port et puis il y a la gravure de Dürer qui est reproduite en grand sur un grand panneau de métal. Je me dis, mais qu'est-ce que fait Dürer à Marseille? Puis après, je lis que la créature s'est arrêtée. Il y a plusieurs fois dans mes pérégrinations, c'est comme cette histoire revenait à moi. Elle me disait, mais raconte-moi, j'ai envie que c'est toi qui me le racontes. Sur l'île d'If, oui, la créature s'est arrêtée. François Ier, qui venait de gagner Marignan, était dans le coin. Il régnait depuis moins d'un an. Il était super jaloux de Manuel Ier, qui lui avait cette grosse créature. Et maintenant, le pape allait la voir. Alors, à mon avis, il n'a pas eu, on sait qu'il n'a pas eu de rhinocéros dans sa ménagerie, mais 2 ans plus tard, il a quand même attrapé Léonard de Vinci dans sa ménagerie, ce qui est déjà pas si mal comme, je sais pas, comme prise.
Oui, c'est ça, qui a fini à Amboise, Léonard de Vinci, dans le château d'Amboise. Oui. Bon, voilà, c'est très drôle, c'est un roman qui est très réussi, Eugène. Félicitations.
Merci.
Et c'est très accessible à tous. On sent d'ailleurs votre patte pour la littérature jeunesse, mais c'est complètement pour les adultes aussi. Ouais. Merci beaucoup, Eugène.
Avec plaisir.
Ganda
merci.
Est paru chez Slatkin. Précipitez-vous chez votre libraire indépendant, s'il vous plaît. C'est le livre à lire en cette fin 2018, distrayant, intelligent, passionnant, un livre pour toute la famille. Et d'ailleurs, si vous n'aimez pas Ganda, les éditions Slatkin vous remboursent car elles célèbrent leur 100e anniversaire cette année.
C'est vrai.
Donc voilà, on est tranquille. Merci beaucoup, Eugène. Catherine Deneuve vous offre, quant à elle, le livre d'Isabelle Giordano. On n'a que des livres de grande qualité aujourd'hui. C'est dans un instant. Ce sera après la reprise d'un célèbre titre de Jean Ferrat, interprété par Deneuve et Benjamin Biolay dans la librairie francophone.
Le vent dans mes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie.
Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie.
Tout ce qui tremble et palpite,
tout ce qui lutte et se bat,
tout ce que j'ai cru trop vite
n'a jamais perdu pour moi.
Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie.
Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris, que c'est beau la vie.
La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau la vie.
Tout ce que j'ai failli perdre,
tout ce qui m'est redonné,
aujourd'hui me monte aux lèvres
en cette fin de journée.
Pouvoir encore en partager ma jeunesse et mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie.
Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. C'est beau la vie.
Que c'est beau.
Ah oui, c'est beau, beau. C'est beau la vie.
La vie.
Catherine Deneuve et Benjamin Biolay avec C'est beau la vie, extrait du film Potiche sur la RTS, la RTBF, ici Radio-Canada et sur France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Canada,
Radio-Télévision Suisse.
la librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Isabelle Giordano est avec nous pour un beau livre sur Catherine Deneuve. Et la chanson, Isabelle, va accompagner l'air de rien presque toute la carrière de l'artiste.
Oui, c'est une actrice et une chanteuse. Un peu comme Romy Schneider d'ailleurs, oui. J'ai pas fait exprès, mais c'est vrai que j'avais écrit sur Romy Schneider, mais les actrices chantent, et quand elles chantent bien, comme on vient de l'entendre, c'est plutôt évocateur, et tout d'un coup on a l'impression de voir un film qui se déroule sous nos yeux.
Vous parlez évidemment des Parapluies de Cherbourg, de Jacques Demy, on va y revenir, le tournant
c'est
de sa carrière.
C'est pas toujours elle qui chante dans les films,
non,
hein, vous savez.
D'ailleurs,
hein,
oui, ouais, exactement.
Au début, elle avait été doublée, et ça l'embêtait un petit peu hein, d'ailleurs d'être doublée, et puis après on l'a laissée chanter.
Alors sur les Parapluies, oui.
Oui,
qu'elle doit apprendre le texte par cœur. C'est elle qui prend le cinéma par-dessus la jambe, hein, parce que rappelons-le, en fait, c'est sa sœur qui voulait être actrice.
C'était pas sa vocation première.
C'était pas sa vocation. Et elle dira finalement que le cinéma, c'est de la rigueur et du travail. Elle apprend ça avec Jacques Demy, parce qu'elle doit apprendre les textes par cœur à la virgule près, parce que justement, ils sont chantés.
Et oui, et Jacques Demy était un metteur en scène extrêmement maniaque, mais au bon sens du terme, obsessionnel au bon sens du terme. Et c'est vrai que pour faire ses opéras chantés, il en fait effectivement des obsessions et de la rigueur, et je pense que ça a été une très bonne école. Le cinéma est donc venu par hasard, je pense qu'elle avait 16 ou 17 ans quand vraiment elle a pris le chemin des plateaux avec sa sœur, traînée vraiment par la main par sa sœur,
ouais.
Et sa vraie école, ça a été Demy, ça a été ensuite Buñuel et Polanski, ouais. Trois maîtres, et qui chacun à leur manière, avec leurs différences, ont été des maîtres de rigueur.
Et plusieurs vont essayer de la faire chanter avec réussite, souvent.
Oui.
On va écouter un extrait des Parapluies de Cherbourg et un autre film beaucoup plus récent, Enchaîné, que vous allez reconnaître.
C'est la première fois que je reviens à Cherbourg depuis mon mariage. J'ai été chercher la petite chez ma belle-mère en Anjou. J'allais rentrer à Paris, puis j'ai fait ce détour. Je ne pensais pas te rencontrer. Il a fallu ce hasard.
Je peux vivre sans toi, oui, mais ce qui me tue, mon amour, c'est que je ne peux vivre sans t'aimer.
Les Bien-aimés de Christophe Honoré. Ce sera presque 50 ans plus tard.
Mmh.
Et Deneuve rechante, notamment avec sa fille, avec Chiara Mastroianni, cette magnifique chanson.
Il y a des similitudes entre l'univers de Christophe Honoré et celui de Jacques Demy. C'est difficile, bien sûr, de faire des comparaisons. Mais c'est un peu la même famille. Mmh. C'est les mêmes histoires de famille, d'ailleurs, hein, qui sont racontées là, qui sont racontées en chanson avec beaucoup, beaucoup de mélancolie, beaucoup de nostalgie. Et en même temps, avec ce sens du romanesque qu'on aime à la fois chez Truffaut, chez Demy, chez Honoré. Et c'est vrai que Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni sont des formidables interprètes pour raconter ces histoires compliquées de famille.
Mais c'est un film très émouvant d'ailleurs, Les Bien-aimés.
Il faut le voir et le revoir.
Ah, c'est magnifique,
si
vraiment.
Si ceux qui nous écoutent ne l'ont pas vu, vraiment. C'est à découvrir. Mmh. Et vraiment, la musique d'Alex Baupin, vous pouvez aussi, sans les images, savourer les textes et la musique d'Alex Baupin.
Oui, sans doute son œuvre la plus réussie d'Alex Baupin.
Ouais.
Vraiment. Je vous propose Isabelle Giordano.
C'est sympa pour le reste.
Non, mais la plus réussie, on réussit tous un truc mieux que les autres.
Oui.
Non, mais vous voyez, après, c'est un goût personnel. Hein.
Oui.
Je crois que je lui ai dit en plus. Bon, tout va bien. Isabelle Giordano, je vous propose d'écouter Catherine Deneuve dans un extrait d'entretien réalisé en 2014. Elle va revenir justement sur ses réalisateurs, les grands réalisateurs qui l'ont fait tourner. C'était en France dans l'émission Escale Estivale. Vous êtes très fidèle à André Téchiné. Je crois que c'est le 7e film ensemble.
Oh, c'est pas de la fidélité, c'est un mélange d'amitié et d'admiration.
Qu'est-ce que vous aimez justement chez lui? Sa façon de tourner, sa personnalité?
J'aime son talent de cinéaste. Pour moi, c'est un très grand metteur en scène. Je trouve que vraiment, c'est un metteur en scène. Si on voit même quelques scènes simplement d'un film sans savoir, on reconnaît, je veux dire, un film de Téchiné. Il a une élégance comme ça dans la façon de filmer des grands plans séquences. Voilà. Et il se trouve qu'en plus, c'est un ami, oui.
Il y a pas mal de réalisateurs qui ont compté pour vous, Catherine Deneuve. Je pense évidemment à Jacques Demy, qui vous a lancé avec Peau d'âne,
ah oui.
Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort. Il y a eu aussi Truffaut pour Le Dernier Métro, qui vous a valu un César d'ailleurs. Quel est le film qui a généré un déclic chez vous, qui a peut-être changé votre façon de jouer?
Je pense que c'est Les Parapluies de Cherbourg. Je pense que très jeune, avoir l'occasion de tourner une chose aussi aussi étonnante parce que c'était vraiment un opéra filmé, un film qu'on allait tourner entièrement en playback et tourner avec quelqu'un comme Jacques Demy qui lui aussi est un grand cinéaste et qui a une façon de filmer assez particulière aussi, qui aime beaucoup les très longs plans, les travelling. Moi, j'ai pris goût à ça très jeune et c'est vraiment, oui, ce que j'aime vraiment beaucoup au cinéma, chez eux en tous les cas, Jacques Demy ou André Téchiné. Donc, ça a été vraiment une révélation pour moi, les parapluies.
Son rapport avec les réalisateurs est très incarné. Hein. Vraiment, ce sont eux qui vont la faire avancer, la faire changer parfois. Elle le sait, elle le reconnaît. Et toute sa carrière, elle rendra hommage aux réalisateurs. Elle partage son succès d'une certaine façon, Isabelle.
Oui, et moi, ce que j'ai trouvé intéressant en me replongeant dans ses films, dans sa filmographie, comme le veut cette collection, hein. On feuillette film par film des personnages, des histoires. Hein. On n'est pas du tout dans la vie privée d'une actrice. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de trouver des fils conducteurs et d'essayer de trouver un lien, même. Une logique, si tant est qu'il y ait des logiques dans la vie, mais j'aime bien l'idée qu'effectivement il puisse y avoir une familiarité entre Jacques Demy, Téchiné, Ozon, Emmanuel Berco aussi, et c'est vrai que ce sont tous, comment dire, des gens qui ont essayé d'orchestrer un chaos incroyable que l'on trouve parfois, non pas sur les champs de guerre, comme l'a souvent dépeint Jacques Tardy, mais le chaos, parfois, il est là au quotidien, dans la famille.
En tout cas, elle grandit après chaque rôle. Au début, en tout cas, dans les années 60, années 70 aussi, c'est très dur avec Louise Buñuel. Il y a une grande tension sur le tournage du film Belle de jour. On est en 1967. On ne discute pas avec Buñuel. On est seul face à lui et on exécute. Et vous racontez qu'elle le vit mal.
Oui, parce qu'il est en plus très impressionnant quand même à l'époque. C'est l'ami de Dali, c'est l'ami de tous les surréalistes, de Breton, etc. Donc c'est une figure hein, quand même très impressionnante et il est très autoritaire. Et c'est vrai qu'il construit lui aussi avec beaucoup de maniaquerie. Il faut se mettre là, il faut dire le texte comme ça. Il l'oblige à parler lentement. Elle demande même à sa sœur de venir la voir sur le tournage tellement elle souffre. Ouais. Enfin, entre guillemets, c'est pas de la vraie souffrance, mais c'est vrai qu'on peut être malheureux quand on met metteur en scène est trop autoritaire.
Et vous racontez d'ailleurs que tout le monde attend la réaction de Joseph Kessel, parce que c'est l'auteur du livre publié en 1928. La Projo arrive, Kessel débarque, il regarde le film, et à la fin, il dit être bouleversé. Et tout le monde pousse un ouf de soulagement.
Oui, il y a un
même
peu de
Buñuel.
Il y a un peu de ça. Et puis c'est vrai, quand on revoit les extraits du film, il est quand même assez fantasmagorique.
Ah,
hein, il est quand
fou.
Même très original, donc voilà, on pouvait s'attendre
très tendu,
à un film très surprenant.
Il y a deux libraires qui ont lu votre livre, Isabelle Giordano, la Belgique et le Canada. On commence par qui ?
Le Canada.
Le Canada, allons-y. Marie-Hélène Vaugeois à Québec.
Oui, j'ai adoré j'ai vraiment adoré la facture visuelle de ce livre. J'étais vraiment impressionnée par la recherche iconographique que vous avez faite. C'est des photos qui résument à merveille la carrière exceptionnelle de Catherine Deneuve. J'aurais voulu plus de liens, par contre, entre chaque film. J'aimais bien les textes, mais j'aurais aimé qu'il y ait plus de liens. Mais je comprends que c'était peut-être un peu difficile à faire.
Ben non, mais c'est ce qu'on vient de dire. Si, il y en a.
Il y en a, mais j'en aurais pris plus.
J'ai envie de dire aussi que c'est au lecteur de faire le lien.
Ben oui.
Il n'y a rien de mieux. C'est à vous de construire un peu l'histoire et le collier de perles. Et en tout cas, je voudrais rendre hommage aux iconographes et à l'éditeur Gallimard qui a fait ce travail.
Déborah Damblon, pour la Belgique, vous n'êtes pas tout à fait d'accord.
Ben, moi, comme tout le monde, je pensais que j'avais une assez bonne idée de qui était Catherine Deneuve, l'icône, hein, bien sûr, et puis l'actrice. Mais quand on voit tout ça noir sur blanc, enfin même avec des couleurs, hein, puisqu'il y a des photos couleurs, ben, c'est vraiment juste impressionnant, je trouve, parce que quelle femme multiple, et puis quelle durée dans le ton. Et j'ai apprécié aussi le ton si juste pour les commentaires, parce que moi, je les ai trouvés à la fois précis et informatifs. Et puis aussi, en ces temps de potins, de rumeurs, de tout ça, ben, jamais déplacé. Toujours centré sur l'artiste, et ça j'apprécie.
Merci.
Catherine Deneuve, qui a cette capacité d'adaptation, passant d'un rôle très sombre à une comédie frivole comme Le Sauvage, un film de Rapneau avec Yves Montand. Elle doit casser comme ça son image de froideur. Elle deviendra aussi spontanée, sexy, passera par les incontournables films de flics et les comédies phares commerciales des années 80, comme L'Africain de Philippe de Broca avec Philippe Noiret. On écoute un extrait.
Et mon laboratoire ?
Il a sombré. Tu crois tout de même pas que j'allais passer mes soirées à arroser des boulons de culture et des cultures de cucurbitacées ?
Ouais, quand je pense à toutes ces années de recherche...
Oh, pour jamais rien trouver. Ah si, c'est vrai. Une culture d'algues comestibles en eau douce.
Ah bah c'était fantastique, ça !
Immangeable, enfin, pas franchement mauvaise, mais aucun goût. Non, c'est ridiculisé.
Mais à qui la faute ? Tu vends le brevet aux Japonais au moment où j'allais trouver une hybridation et patente.
Enfin, écoute, on était trop chers, on n'avait plus un sou. Moi, je trouve un marché fantastique avec les Japonais. Qu'est-ce que vous faites, vous, plancher, objectivement ?
Les Japonais encore, on n'a pas fait exprès.
On dirait du Fedo, c'est extraordinaire. On dirait du Fedo, ouais. Et vous voyez son débit, c'est une vraie musique, c'est absolument incroyable.
Et rien à voir avec ce qu'elle a fait avant. Là encore, elle oriente à nouveau son image. Certains sont surpris de l'avoir passé du Dernier Métro, film culte de Truffaut, je crois que c'est 3 ans avant, en 1980. Puis elle se retrouve là, comme ça, avec Philippe Noiret. C'est une bonne actrice, Catherine Deneuve, Isabelle Giordano.
Oui, et en même temps, je pense que comme toutes les actrices, il y a des hauts et des bas. Si elle n'a pas la bonne partition, bah parfois ça fait un flop. Dans cette carrière qu'on feuillette comme ça, bah il y a des films qui ont peut-être été des échecs ou qui ont été moins réussis, qui sont un peu à côté de la plaque. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand même les chemins de traverse.
Ouais.
C'est de voir aussi les films qu'elle a pu faire qu'on a totalement oubliés. Moi, j'ai redécouvert des films de Marco Ferreri.
Ah bah oui.
Aujourd'hui, on ne sait peut-être plus qui est l'auteur de La Grande Bouffe, mais il a fait un paquet de films qui étaient vraiment des provocations ambulantes dans notre époque de politiquement correct, on serait incapable aujourd'hui de faire des films comme Lisa, où elle devient la maîtresse, la chienne de Marcello Mastroianni. Oui. Elle a un collier, il la traîne comme il en fait sa chienne avec tous les sous-entendus, voilà. Et je trouve ça extraordinaire.
Et c'est avant La Grande Bouffe, hein, d'ailleurs.
Juste un an avant La Grande Bouffe, et je trouve très révélateur de la capacité de provocation aussi de Catherine Deneuve de pouvoir aller au-delà de cette image d'icône glacée. Elle est tout sauf une icône glacée.
En tout cas, elle a un charisme.
Et si vous me laissez 2 secondes, je voudrais aussi remercier Mathieu Guetta qui m'a beaucoup aidé aussi pour les recherches documentaires pour ce livre.
Et puis il y a ce film Indochine, immense succès, film de Régis Varnier, politique, qui évoque l'Indochine française et les accords de Genève, film esthétique, co-scénarisé par Louis Gardel et Eric Orsenna, chef-d'œuvre du cinéma français en 1992. Indochine révèle une nouvelle Catherine Deneuve.
Oui, alors c'est ce qu'on appelle le fameux cap de la maturité. J'adore quand on parle comme ça, uniquement pour les femmes,
oui,
bien
en plus,
sûr.
Oui, généralement.
Mais c'est pas facile, pour, comme le disait Aznavour, hein, durer, hein, c'est ça qui est difficile, c'est de se renouveler, de passer la quarantaine, la cinquantaine, etc. etc. Elle le réussit grâce à la complicité, là encore, non pas de Téchiné, mais de Régis Varnier, qui va brosser un vrai portrait de femme forte contre vents et marées. Et je pense aussi que les bons films sont aussi ceux qui ont des bonnes histoires dans les coulisses. C'est un peu comme Apocalypse Now, Indochine. Il y a tellement d'histoires sur le film va s'arrêter, ça va rater, il pleut, on n'en peut plus, on n'a plus d'argent, et il se passe ci, il se passe ça. Donc c'est le film dans le film qui est tout aussi intéressant que le film lui-même.
Et elle aura traversé comme ça, sans encombre, les années 60 et la nouvelle vague, le cinéma des 70s.
C'est le dernier film qui a réussi à avoir un Oscar du meilleur film étranger, quand même, Indochine, 92.
Et les années 80-90 aussi, sans problème. Et puis les années 2000, sans aucune faiblesse, Björk et Lars von Trier. Ozon et ses 8 femmes, le délirant tout nouveau testament avec un gorille et Benoît Poulvorde, c'est absolument incroyable.
Ouais.
Merci
Ozon,
beaucoup.
Il faut revoir cette scène où elle échange un baiser avec Fanny Ardant.
Ah, je croyais de la scène du gorille.
Ah oui, la scène du gorille, c'est pas mal non plus. Hein.
Il y a son mari qui arrive dans la chambre, fait « Ah ben tu es déjà arrivé, tu es rentré. » Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel. C'est génial. Merci Isabelle Giordano.
Merci à
Votre
vous.
Livre est un vrai voyage francophone comme on les aime ici. Un beau livre parfaitement réalisé et maîtrisé, c'est chez Gallimard, et cela va être sans doute un livre pour les fêtes. Ah non, on parle pas de Noël, on m'a dit, mais c'est trop tôt, c'est vrai, j'ai rien
dit. Si ça peut faire rêver, tant
mieux.
Voilà.
Chacun prendra comme il voudra. Merci Isabelle. Et vite, vite, la chronique des libraires avec les coups de cœur et les coups de gueule. On commence avec un coup de gueule, Déborah Damblon en Belgique.
Ben oui, vous vous souvenez Emmanuel, il y a quelque temps, je vous ai parlé des élections communales ici en Belgique.
Oui.
Et oui, et ben voilà, c'est fait, on a voté. Alors je vous épargne les résultats.
Oui.
Non, je vous ai... Mais écoutez, vous allez voir.
Allez-y.
Je vous épargne les résultats, c'est déjà gentil. Mais j'ai envie de vous parler d'un petit détail, vous voyez, un truc qui me chiffonne. Parce qu'en matière de culture, eh bien, il ne s'agit jamais d'un portefeuille, un échevina, comme on dit chez nous, à part entière. C'est toujours la culture et les sports, la culture et l'enseignement, la culture et je ne sais pas trop quoi. Enfin bref, d'une façon ou d'une autre, même si en général on la cite d'abord, la culture, je trouve qu'elle passe souvent après le reste et c'est vraiment regrettable.
L'engagement d'un libraire sur la politique, ça devrait plaire à Jacques Tardy. Hein, c'est bien.
Oui, je trouve
Oui, oui, j'aime bien les libraires comme ça.
Merci Déborah. Au Canada, un coup de cœur, Marie-Hélène Vaugeois, dans le rayon des livres pour la jeunesse. On laisse une place à la jeunesse chaque semaine. Et c'est votre tour de porter cette séquence, Marie-Hélène.
Oui, donc je vais vous parler du livre « L'enquête secrète du fantôme de l'école » de Jean-François Sénéchal avec des photos de Julie Durocher aux éditions Jules Lamouche. C'est le troisième tome dans cette série. Ce sont des intrigues menées par quatre enfants qui sont pris en photo et qui font cette fois-ci une recherche parce qu'il y a un fantôme dans leur école. Mm-hmm. On va se rendre compte que c'est un fantôme au grand cœur. Très, très sympathique.
L'enquête secrète du fantôme de l'école aux éditions Jules Lamouche. Merci Marie-Hélène. La semaine prochaine d'ailleurs, on aura un jeune de 13 ans, je crois, qui sera en plateau avec nous pour vous donner son coup de cœur. Thomas Auxerre est en France et il a un coup de...
Un coup de cœur.
Cœur, ouais, c'est ça.
Eh oui, un coup de cœur Emmanuel, un super coup de cœur pour un petit coffret qui vient tout juste de paraître chez Gallimard. Alors c'est Alcool de Guillaume Apollinaire, bon, tout le monde connaît.
Ah oui, génial, j'adore.
Eh ben oui, alors là du coup Gallimard vraiment nous a fait un petit plaisir, enfin moi en tout cas un super plaisir. Ils ont repris la version qui a été aquarellée par Louis Marcoussi à l'époque, donc qui était un ami d'Apollinaire et qui à sa mort prend son exemplaire d'Alcool et commence à faire des aquarelles. Alors du coup, c'est une sorte de coffret un petit peu cubiste, vous voyez, il y a des découpages, ouais, c'est un petit génial. Peu étonnant. J'ai retiré, et je vois que Monsieur Tardy, regardez, on a mis aussi les eaux-fortes qui sont reproduites d'époque, wow. Illustrées par Marcoussi. Alors moi, je trouve que c'est un objet vraiment magnifique, et puis je pense que ça peut même parler à des jeunes. Vraiment.
Bah, carrément, ouais. Il faut absolument lire Alcool d'Apollinaire. C'est chez Librio, c'est cher ou pas?
Et non, c'est chez Gallimard.
Ah oh, bon
c'est, alors,
il y a marqué Librio.
Il y a marqué... Ah ouais, c'est étonnant. Non, bah, c'est chez Gallimard. Ça vaut 35 euros, mais vous avez,
quand même.
Vous avez Alcool, les eaux-fortes et même une petite étude.
Merci Thomas. Claire Renaud est en Suisse. Un coup de cœur dans le rayon des beaux livres, Claire.
Oui, à l'occasion du centenaire de la naissance de Ferdinand Hodler, vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup de livres qui paraissent sur lui. Et moi, je vous présente celui aux éditions Notary qui s'intitule « Documents inédits ». Vous allez découvrir ses amitiés, ses liens familiaux et des peintures absolument magnifiques. Dans un ouvrage très noble, avec un papier absolument magnifique et agréable à toucher et à porter dans sa main. Donc je recommande pour tous les férus de Hodler cet ouvrage où ils vont découvrir plein de choses qu'ils ne connaissaient pas.
Les documents inédits d'Hodler aux éditions Notary. Merci Claire. Et à suivre, Jacques Tardy qui est en plateau avec nous. Nous parlerons avec lui de sa nouvelle BD en avant-première. Et voici le tout nouveau titre de Salif Keita. Double événement tout de suite donc dans votre librairie francophone. le tout nouveau Salif Keita, extrait d'un album qui est sorti vendredi. C'est tout chaud, c'était Bapulo sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
Ici Radio-Canada première.
RTBF la première.
France Inter.
Jacques Tardy est dans la librairie en avant-première pour un entretien portrait à l'occasion de la sortie du volume 3 de Moi, René Tardy, prisonnier de guerre au Stalag 2B, bande dessinée historique sur son père à la guerre. Et puis quatre expositions sont en ce moment programmées en Normandie, en France, à Falaise. On vous dit spécialiste de la BD de la Première Guerre mondiale, Jacques Tardy. Et c'est vrai qu'avant cette série, autour de votre père engagé dans la seconde, la guerre 14-18 a marqué votre œuvre. Vous avez surtout exploré la condition humaine dans ses pires moments. C'était ça, votre propos?
Oui, bien sûr. Bon, tout à l'heure, je disais que j'avais été abruti, entre guillemets, par les récits de la captivité de mon père, mais je l'ai été aussi par les récits de la Première Guerre mondiale. Et ça, c'était ma grand-mère qui en parlait. Et ma grand-mère me racontait des horreurs. Et j'avais ce grand-père en face de moi, là. Je me disais, c'est lui qui a vécu tout ça. Je ne lui ai jamais posé aucune question. Mais chaque fois, je recadrais, je revoyais ce grand-père comme ça en me disant, on lui a donné cet uniforme, on lui a donné un fusil, on l'a envoyé dans des tranchées, on l'a fait creuser des trous, et d'une certaine façon, on l'a transformé en assassin aussi. Parce que c'était un homme calme, qui n'était absolument pas violent et qui avait, bien sûr, il a été blessé plusieurs fois, gazé, comme la plupart de ses anciens combattants. Ça m'est resté comme quelque chose d'épouvantable.
Mais ça vous a marqué, Jacques.
Qu'on puisse manipuler les gens comme ça.
Oui. Au point quand même d'en être influencé pour la forme même de vos bandes dessinées. Les tranchées vous ont considérablement marqué. Il faut savoir que les planches, en tout cas de ces livres sur la guerre, sont disposées avec trois cases rectangulaires, que trois cases. Et ça fait penser aux tranchées.
Oui. L'idée, c'était la ligne d'horizon, ce que voyait le soldat du fond de la tranchée. Ceci dit, ça aurait pu être des images verticales aussi. Hein. On aurait pu prendre la tranchée, la couper comme ça.
Mais c'est vrai que vous explorez comme ça, Jacques Tardy, les destinées individuelles. Il y a votre personnage, Lucien Brindavoine, par exemple, rescapé, lui, de la Première Guerre mondiale, qui deviendra ensuite un personnage de vos aventures d'Adèle Blanc-Sec. L'histoire, avec un grand H, ne vous intéresse pas, dites-vous. Vous dites, je ne suis pas un historien.
Non.
La politique, l'héroïsme, ça vous touche pas.
Ce qui m'intéresse, c'est le type qui est en bas. Dans mes histoires, il n'y a pas d'officiers, il y a très peu de gens qui prennent des décisions. Ce qui m'intéresse, c'est le type qui subit et savoir comment il va s'en sortir éventuellement. C'est celui-ci qui m'intéresse. C'est pas celui qui donne les ordres.
Pas celui qui donne les ordres. Pas les politiques, vous n'avez pas de considération.
Aucune
pour les...
considération. Aucune. Rien du tout. Aucune.
Pour les hommes
pire
et femmes politiques.
Que ça, encore.
Ah oui. Qu'est-ce qui vous dérange? Le patriotisme?
Alors, on a, par exemple, on s'est beaucoup interrogé, on a dit, mais comment ont-ils tenu ces gens dans les tranchées? Alors, on nous a dit, par patriotisme.
Ouais.
Je n'y crois pas un instant. Hein. Moi, je pense que c'était par rapport aux autres. Ils étaient dans le regard d'autres soldats, de copains, je ne sais quoi. Et ils ne voulaient pas avoir l'air de dégonflés, de lâches ou je ne sais quoi. Je pense que c'est à partir de ça qu'ils sont restés. Dans le regard des autres.
Mais alors c'était très compliqué pour eux. Il y a d'ailleurs dans le nouveau volume de cette série, Stalag 2B, il y a ce personnage qui est votre père.
Là, on change de guerre.
On change de guerre, voilà, en 39-45. Et c'est l'après-guerre. Les deux précédents volumes, c'était pendant la guerre. Et puis il y a cette scène qui est bouleversante, je trouve. Votre père vous raconte qu'il a tué des Allemands par pendaison. Des Allemands qui les harcelaient, en fait, qui les accompagnaient comme ça dans un camp. Et ils ont trouvé l'occasion de les tuer. Et vous, vous prenez position, vous dites, mais tu agis comme eux.
Oui, c'est la réaction.
Mais peut-être ça a été aussi, votre réaction
peut-être
aussi.
Peut-être que si j'avais été sur le terrain, j'aurais fait comme les prisonniers, qui avaient pendant 5 ans enduré tout un tas de sévices en tout genre de la part des soldats allemands qui les entouraient. Donc là, dans les derniers jours de la guerre, ils ont la possibilité de... Et puis surtout ils sélectionnent. Hein, attention, ils en sélectionnent 5, les plus vaches, etc. Ouais. Et c'est eux qui... Ils les pendent aux armes. C'est vraiment la toute fin de la guerre et c'est très symbolique. Il y a un canal. Les soviétiques arrivent d'un côté, les alliés en face et évidemment, les Français sont du côté soviétique, mais ils vont passer en face. Et il y a ces Allemands qui, jusqu'au dernier moment, les emmerdent. Et ils décident de les pendre.
Qu'est-ce qu'il a dit, votre père, quand vous lui avez dit
alors,
ça?
Alors, je n'ai jamais parlé.
Vous n'avez
avec
pas parlé,
lui.
Non.
Oui, parce que c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il a écrit ses cahiers. Je les ai posés sur une étagère, je me suis dit, j'en ferai quelque chose, c'est sûr, j'en ferai quelque chose.
Et dans les années 80, en début
oui,
des années 80.
J'ai dû terminer un Adèle ou un Nestor Burma, je sais pas quoi. Le temps passant, mon père est mort. Oui. Donc je ne lui ai pas posé les questions et j'ai regretté évidemment de ne pas lui les avoir posées.
Ah, c'est ça le regret alors.
Et c'est pour ça que j'ai introduit ce gamin qui est moi, qui pose les questions.
Et qui donne son avis.
Oui, et quelquefois, mon père ne répond pas.
Ben non.
J'ai pas la réponse, il répond pas. C'est pour ça que j'ai introduit ce môme qui l'accompagne.
Mais vous avez peur de sa réaction, aujourd'hui?
Non, plus maintenant.
Non. Vous avez imaginé ce qu'il aurait pu répondre?
Oui, ouais. J'ai bien été obligé de le faire. J'ai bien été obligé de le faire.
Bon, Tardy, on vous connaît aussi pour vos adaptations littéraires. Les livres de Léo Mallet, avec des passages xénophobes, paraît-il, que vous avez coupés. Notamment avec Nestor Burma. Vous avez aussi illustré des œuvres de Céline. Vous êtes dirigé vers des œuvres littéraires, comme ça, pour vous dissocier de la BD franco-belge, pour vous dissocier des petits Mickey, comme on dit.
Si vous parlez de Céline, bon, c'est mon père, encore une fois, qui me l'a fait dire. Il m'a fait lire Mort à crédit. Il dit, tu verras, il y a des passages, il y a des gros mots, mais c'est bien et tout. Il se souvenait du passage où ils vont en Angleterre, où tout le monde se vomit dessus, sur le bateau, etc. Alors, je voyais les images, il y avait des images. Bon, c'est ça qui m'a intéressé. Alors, j'ai lu Le Voyage, j'ai mis longtemps avant de réussir à le lire. Ouais. Effectivement, il y a tout un tas d'images. Et là aussi, le début, c'est la Première Guerre mondiale. On démarre avec ça. Et je vois très bien Bardamu qui suit le régiment. Hein, ouais. Ils vont à la caserne et il dit les lourdes portes de la caserne se ferment derrière lui et de l'autre côté elles s'ouvrent sur le champ de bataille. Ça c'est tout à fait cinématographique.
Ouais, mais ça répond pas à ma question, Jacques. Est-ce que vous étiez comme ça un petit peu en marge par rapport à la BD franco-belge? Je sais que vous aimez par exemple plus la complexité de Jacobs à la fluidité narrative et picturale d'Hergé.
Oui, j'ai jamais été un grand fanat d'Hergé.
Non.
Non, mais parce que en plus de ça, je trouve que la bande dessinée belge est trop propre. Il y a pas de papier gras dans les rues. Je trouve que c'est trop, un petit peu trop net.
Bon, allez, on va voir du côté de nos libraires. Vous êtes d'accord? Qui vont donner leur point de vue sur votre œuvre, Jacques Tardy, avec Marie-Hélène Vaugeois. Vous êtes une lectrice d'Adèle Blanc-Sec, vous, au Canada, auteur de feuilletons, hein, curieuse, on le rappelle, à qui il arrive plein d'aventures, Adèle Blanc-Sec.
Oui. Et la première fois que j'ai lu un Adèle Blanc-Sec, j'étais particulièrement heureuse de découvrir une héroïne de bande dessinée forte, indépendante, avec beaucoup de caractère. Mmh. Avant de commencer, je n'avais pas réalisé qu'il y avait très peu de modèles féminins en bande dessinée et que ça m'avait manqué. Et tout d'un coup, je découvrais une vraie femme, élégante, intelligente. Il y avait tout pour me plaire, de l'action, l'intrigue, du fantastique et des personnages pas stéréotypés. Donc, merci.
C'est le Tintin de Jacques Tardy, Adèle Blanc-Sec.
Il y avait Barbarella, quand même, comme personnage féminin.
Oui, c'est vrai. Oui, bon, c'est un peu différent. Thomas Auxerre, pour la France, vous êtes fan de Tardy. C'est la fête pour vous aujourd'hui.
Exactement.
Un rêve se réalise.
Eh ben oui, c'est exactement ça. Donc, merci la librairie francophone. Moi, quand j'ai appris que vous étiez là sur le plateau, j'étais comme un fou. D'abord, vous avez un trait qui est reconnaissable entre tous. Et puis, il y a surtout vos sujets, moi, qui m'ont toujours passionné. Votre travail, pour moi, relève du patrimoine vivant. Pour moi, vous êtes synonyme d'humanité. Et puis, en plus, on va dire que c'est l'humanité dans ce qu'elle est de plus grand, mais aussi dans ses travers. Et ça me fascine.
Bien, Claire Renaud, en Suisse, vous avez lu la série Stalag 2B.
J'ai pas grand chose à rajouter du coup, parce que je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient de se dire. Et puis, je trouve que c'est un témoignage surtout très fort sur la réalité de la guerre et des camps. Et ça se lit très facilement. On attend avec impatience le troisième. J'admire beaucoup, beaucoup ce que vous faites parce que votre ton est vraiment très juste. Voilà. Et puis, en plus, il y a les dessins. Mais on l'a déjà dit.
Merci à vous. Dans cet album, Jacques Tardy apparaître le 28 novembre. Le tome 3, Stalag 2B, c'est l'après-guerre et les conséquences humaines que la guerre a causées. Contrairement aux deux précédents volumes, vous êtes né et vous faites partie de l'histoire.
Oui, alors donc le petit gamin représenté dans un premier temps a disparu, c'est moi qui interviens en vraie grandeur.
Ouais.
Bon, et alors ce qui était intéressant dans le parcours de mon père, c'est qu'après avoir passé presque 5 ans en captivité en Allemagne, il faut dire qu'il s'était engagé en 37. Donc quand la guerre termine, il est toujours dans l'armée, il est toujours militaire. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien du tout. Il reste dans l'armée avec l'idée de quitter l'armée, mais il reste un certain temps. Et on va le renvoyer où ? En Allemagne, avec les troupes d'occupation. Et donc là, j'y suis, moi. Nous sommes dans les années 50. Alors là, c'est encore une histoire, une page qui est peu glorieuse, l'histoire de l'armée française, etc., en occupation en Allemagne, notamment à Baden-Baden, où là, il y a tous les trafics possibles et imaginables, etc. Les Français se vengent.
Ouais.
Hein, bon, et c'est pas beau à voir. Mais il y a un autre aspect aussi, c'est que cette Allemagne d'après-guerre est repartie industriellement. Ce qui fait que mon père va s'acheter sa première automobile, qui sera une Volkswagen, évidemment. Etc., etc. Tout le monde se meuble, s'équipe et tout en Allemagne. Et ça aussi, mon père le vit très très mal.
Mais c'est un peu plus léger quand même. J'ai eu la chance de lire quelques planches, en tout cas la première partie, on ne m'a pas tout donné. Et c'est un petit peu plus léger que les deux précédents.
Oui, là, il n'y a plus ouais. de drame, il n'y a
bah
plus
oui,
de...
Voilà.
Mais, c'est
mais vous êtes quand même critique, hein, vous
ah
y
oui,
allez.
Tout
hein.
à fait,
ah
oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et après, il y a le retour en France, évidemment.
Ça sort le 28 novembre. Merci pour cette avant-première, Jacques Tardy. Merci d'être venu dans la librairie francophone.
Merci beaucoup.
Toute votre œuvre est publiée chez Casterman, la maison d'édition d'Hergé que vous aimez tant.
Merci.
Merci à vous.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Pour conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici le chanteur français Rameau avec un extrait de Amour.
Une femme, c'est grand, c'est fort et rassurant. Une femme, tant au bourgeon, tant au lion. William, qui règne un rêve d'Ève, d'Adam et d'homme. C'est tentant, c'est comme un toucan, c'est rassurant.
Rameau avec Amour, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. Merci Isabelle Giordano. Merci Eugène. Merci Jacques Tardy. À très bientôt.
Merci à vous.
À la réalisation, Étienne Bertin avec Hélène Biziot, Thierry Dupin à la programmation musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Martine Béguin-Felet et Annick Chouin en Suisse, René Mikkels avec Valérie Le Puy en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, l'académicien Marc Lambron avec qui nous parlerons de Michael Jackson, Thomas Reverdy en lice pour le prix Goncourt et un événement musical avec un duo malien, Pedro Kouyaté et la star Mamani Keita. Bonne semaine, bon week-end, salut.